Europe Matin. Ombline Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le mercredi 10 novembre. Comment allez-vous, Ombline, ce matin?
Plutôt bien, merci. Et vous-même?
Ça va très bien,
bon.
Ça va très bien.
Alors, on commence bien, qu'avons-nous à la une ce matin, Julien?
Une allocution, celle hier soir d'Emmanuel Macron. Passe sanitaire conditionné pour les plus de 65 ans à l'injection d'une troisième dose. Réforme des retraites repoussée, construction de nouveaux réacteurs nucléaires. On va évidemment revenir sur tout ça dans nos journaux.
Et puis nous irons en Pologne également.
Où des milliers de migrants sont massés à la frontière avec la Biélorussie dans des conditions déplorables. Il y a les barbelés tranchants comme des lames de rasoir, le froid glacial de novembre et aucune aide en vue. Comble du cynisme, cette vague de migrants est instrumentalisée par le régime d'Alexandre Loukachenko qui a fait venir par avion ces hommes et femmes originaires pour la plupart du Moyen-Orient. C'est la vengeance de Minsk aux sanctions de l'Union européenne pour la violente répression de l'opposition. Nous serons en direct de Pologne dans nos journaux et en ligne à 6h10 avec un grand spécialiste des affaires européennes, Patrick Martin-Jeunier. Ombline, vous nous parlez également d'un livre ce matin quand le cinéma s'inspire des faits divers.
Oui, les exemples ne manquent pas. Hein. Omar Mathieu, Lapa, La French, Le juge et l'assassin, des crimes, des vols, des gangsters, des histoires qui nous indignent lorsqu'on les lit dans les journaux, qui nous fascinent quand on nous les raconte sur grand écran. La réalité peut être même plus vendeuse que la fiction. Souvent, ces films inspirés de faits réels sont d'immenses succès et deviennent cultes. Philippe Lombard revient sur ces faits divers qui ont passionné le cinéma français. Son livre « Ça s'est tourné près de chez vous » sort aujourd'hui et il sera avec nous à 5h40.
Du cinéma également dans votre prescription culture et notamment Aline, le vrai faux biopic inspiré de la vie de Céline Dion, la chanteuse québécoise qui, Ombline, sera également l'héroïne de votre partition.
Retour au début du millénaire, Céline Dion, devenue mère, revient après 2 ans de pause, plus fougueuse que jamais. Rendez-vous à 6h20.
Voilà donc pour une partie du programme. On commence avec la météo de ce mercredi. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Alors la journée est déjà bien fraîche et agitée, notamment dans le sud.
Oui, on a deux départements, je vous le rappelle, hein, les deux départements Corse placés en vigilance orange toute la journée pour pluie inondation. C'est aujourd'hui la journée la plus critique sur la Corse avec des pluies très sévères, vraiment des cumuls très importants. En fait, c'est la dépression Blas qui se trouve actuellement sur le bassin méditerranéen, qui va d'ailleurs aussi aujourd'hui déborder sur la Côte d'Azur et le Golfe du Lion, avec des pluies fortes hein, toute la journée entre Perpignan et Nice. Donc voilà, on a vraiment un temps très agité au bord de la Méditerranée. Sur le reste du pays, ce matin, c'est exactement comme hier. On a beaucoup de brouillard, avec parfois même, à cause des températures en baisse, des brouillards givrants. Donc soyez prudents sur la route. On a Marc qui nous envoie un message et qui nous signale beaucoup de brouillard dans le territoire de Belfort. Soyez prudents, Marc. Cet après-midi, comme hier, le soleil domine sur une grande partie du pays, sauf, vous l'avez compris, au bord de la Méditerranée. Alors les températures, elles sont fraîches, vous le disiez Julien, moins 3 degrés à Montluçon, 1 degré à Paris, jusqu'à 15 degrés à Nice. Cet après-midi, 7 à 20 degrés, c'est quasiment comme hier, sauf qu'à Paris, on va passer en dessous des 10 degrés cet après-midi.
Ah. Couvrez-vous
donc. Exactement.
Merci beaucoup Anissa
Haddadi. Ça vous a séché.
Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire.
L'ultimatum d'Emmanuel Macron aux plus de 65 ans, la troisième dose n'est plus une option. C'est l'une des annonces hier soir du chef de l'État. Intervention de 27 minutes avec au menu la crise sanitaire, mais pas que, la relance économique, mais aussi les réformes. Une allocution aux airs de campagne présidentielle. Analyse dans un instant. Varsovie accuse Vladimir Poutine d'être le commanditaire de la vague de migrants massés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. 3 à 4 000 personnes provenant originaires principalement du Moyen-Orient que le régime d'Alexandre Loukachenko a fait venir par avion. Et puis le soulagement pour les parents de la lycéenne disparue lundi soir en Mayenne alors qu'elle était partie faire un jogging. Elle a été retrouvée vivante hier soir après avoir vraisemblablement réussi à échapper à son ravisseur.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce mercredi vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Vaccinez-vous. L'appel à la responsabilité d'Emmanuel Macron. Hier soir, le président s'adressait aux Français pour la première fois depuis le 12 juillet. Parmi les mesures annoncées, la dose de rappel obligatoire pour les plus de 65 ans qui souhaitent garder leur passe sanitaire.
Toutes les études montrent que 6 mois après le vaccin, l'immunité diminue. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire. Les personnes qui ont moins de 65 ans voient aussi la protection conférée par le vaccin diminuer au fil du temps. C'est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes âgés de 50 à 64 ans.
Alors on l'entend, la campagne pour la troisième dose du vaccin anti-Covid s'élargit. Le mois prochain, la plateforme Doctolib a enregistré 100 000 nouveaux rendez-vous une heure après l'allocution d'Emmanuel Macron. Et à Douai, dans le Nord, les habitants n'ont pas attendu pour réserver un créneau, si bien qu'un centre se prépare à s'agrandir. On remet en place les barnums de vaccination pour augmenter le nombre d'injections. Reportage de notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot.
Dans ce centre de vaccination, les injections de troisième dose ont presque doublé par rapport à la semaine dernière, notamment pour les plus de 65 ans, dont certains ont anticipé les annonces présidentielles.
On est en ordre, nous rentrons avec notre passe sanitaire en bonne et due forme, et voilà.
Ça renforce l'immunité, donc je crois au vaccin.
Puis voilà, il faut avancer, de toute façon c'est dans l'ordre des choses.
Pour l'heure, les 10 boxes de vaccination et les 15 médecins et infirmières suffisent pour répondre à la demande, mais dans l'optique de la campagne de rappel des plus de 50 ans en décembre, Salila Grévin, la responsable du centre, prépare déjà une montée en puissance du dispositif.
Pour nous, remonter en puissance, ça veut dire élargir l'amplitude horaire. Et puis pour ce qui est des professionnels de santé libéraux du territoire, c'est-à-dire 250 professionnels qui peuvent se rendre disponibles les uns le matin, les autres l'après-midi, les autres plutôt en soirée.
Le retour des vaccinations en soirée ou même le dimanche, pour lesquels Véronique, une infirmière, répondra présente.
On est prêt à se réadapter, hein, comme on a su le faire au printemps. Il n'y a pas de souci, ça, on est tous prêts, hein, évidemment. Et au contraire, on veut que les gens soient vaccinés. Et protégé pour l'hiver, évidemment.
Avec en plus la garantie, cette fois, d'obtenir des stocks de vaccins suffisants. À Douai, Lionel Gougelot, Europe 1.
Cette allocution d'Emmanuel Macron était aussi l'occasion pour le président de dresser un bilan de son quinquennat et faire un point sur les chantiers en cours. Il a par exemple annoncé relancer la construction de réacteurs nucléaires pour garantir notre indépendance énergétique, mettre en pause la réforme des retraites et la suspension de l'allocation chômage pour ceux qui ne sont pas en recherche active. Louis de Ragnel, on peut le dire, cette prise de parole avait des allures de campagne présidentielle.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur les 27 minutes 30 d'allocution, Emmanuel Macron a parlé pendant 6 minutes de Covid et plus de 20 minutes de politique pure. Le message est très clair. À ceux qui en doutent, Emmanuel Macron vise bien 2022. D'ailleurs, il ne manquait plus que sa déclaration de candidature. En évoquant, sans prononcer le mot, la question de lutte contre l'assistanat, mais aussi de pouvoir d'achat, de réindustrialisation du pays, de sécurité, de justice ou encore l'annonce de la création de nouveaux réacteurs nucléaires, eh bien, Emmanuel Macron a lancé le chantier de son possible deuxième mandat. Un vaste programme qui contient d'ailleurs des mesures sur lesquelles il a longtemps tergiversé et essuyé les critiques de la droite. Il a donc toujours cet objectif d'essayer de la fracturer en essayant de faire douter des électeurs tentés par certains candidats du Congrès LR et en mobilisant contre lui la droite RPR et conservatrice allant d'Éric Ciotti à Éric Zemmour en passant par Marine Le Pen. Emmanuel Macron a donc fait le pari de tourner à son avantage la crise sanitaire pour lancer le dernier acte de son quinquennat et sa campagne pour 2022.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1.
Et face au rebond de l'épidémie, le ministère de l'Éducation rétablit l'obligation du port du masque à partir de lundi dans toutes les écoles primaires. Il concerne 61 départements depuis le retour des vacances de la Toussaint.
Mais à quoi joue la Biélorussie? Un jeu dangereux selon la Pologne. Varsovie dénonce une guerre hybride commanditée par Moscou. 3 à 4 000 migrants, hommes comme femmes, sont massés à la frontière, instrumentalisés par le régime d'Alexandre Loukachenko. Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. L'Union européenne soupçonne aussi d'autres pays d'être impliqués.
Oui, la Commission européenne a dégainé une liste d'une trentaine d'États sous surveillance. Y figurent notamment la Russie, la Syrie, la Turquie et le Venezuela. Des vols vers la Biélorussie partent de ces pays, explique Bruxelles. Dans certains cas, les autorités locales sont impliquées. Dans d'autres, les départs de migrants s'organisent sans doute à leur insu. Les Biélorusses agissent de manière très sophistiquée, raconte un diplomate. Ils ont des relations dans le monde entier, ils se réorganisent sans cesse. Ylva Johansson, la commissaire chargée du dossier, a précisé que les candidats à la migration étaient attirés sur place de toute bonne foi via des agences de voyage.
Ce que nous voyons, c'est un régime illégitime et désespéré qui invite des gens en leur faisant miroiter un accès facile et sûr à l'Union européenne. Ces gens doivent payer beaucoup d'argent. On les aide à arriver à la frontière et là, l'attitude des hommes en tenue militaire change. Ils les poussent sans leur laisser la possibilité de revenir en arrière.
Face à cela, les Européens cherchent la parade. La Commission va envoyer des émissaires dans certains pays de transit. Les 27 vont durcir leurs sanctions contre la Biélorussie et ils vont, dans les prochains jours, cibler les compagnies aériennes et les agences de voyage soupçonnées de participer à l'opération du président Loukachenko.
Isabelle Horry, correspondante Europe 1 à Bruxelles.
Et on va analyser à 6h10 cette guerre hybride que nous mène la Biélorussie avec notre invité, le spécialiste des affaires européennes, Patrick Martin-Jeunier.
Au large de nos côtes, ce sont plus de 200 migrants qui ont été récupérés en 24 heures entre lundi et mardi dans le détroit du Pas-de-Calais qui relie la France à l'Angleterre. Parmi eux, 4 femmes et 1 enfant. Bilan communiqué hier par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.
Le soulagement, la délivrance pour des parents terrifiés, ceux de l'adolescente de 17 ans disparue en Mayenne lundi soir alors qu'elle était partie faire du jogging.
Information que vous révélez Europe 1, la jeune fille a été retrouvée vivante hier, réfugiée dans un kebab de Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres de chez elle. Écoutez la réaction du maire de Saint-Brice où elle vit, André Boisseau.
Évidemment, un grand soulagement que la petite soit retrouvée saine et sauve. Voilà. Je sais que les parents sont partis la retrouver, ça c'est sûr. Toute la commune, tous les gens qui connaissaient la famille sont très heureux. Ce sont des gens bien, ils méritaient surtout pas qu'on leur enlève leur fille. Moi, ce que je voudrais aussi saluer, c'est tous les moyens qui ont été mis en place toute la journée. Il y a des moments où j'étais plutôt pessimiste. Et là, 24 heures après, ça se termine bien. Ouf.
André Boisseau, le maire de Saint-Brice où vit la jeune femme. L'enquête pour enlèvement et séquestration se poursuit pour déterminer les conditions de la disparition de la lycéenne. Un homme a été placé en garde à vue. Le parquet de Laval doit s'exprimer dans la journée.
Cela fait un peu plus de 24 heures que Thomas Pesquet est de retour sur Terre. Pas de repos pour l'astronaute français qui a atterri peu avant 21h sur le tarmac de l'aéroport militaire de Cologne en Allemagne. L'occasion de retrouver sa compagne Anne après 6 mois de séparation, mais aussi ses collègues de l'Agence spatiale européenne qui l'ont accueilli sous les applaudissements lors d'Autriche.
Thomas Pesquet est apparu assez en forme malgré un visage un peu pâle. Il a raconté la descente en capsule dans l'atmosphère, les flammes qu'il a vues alors à travers le hublot. Il se réhabitue maintenant à la Terre et redécouvre les bruits qui l'entourent, les odeurs aussi. Au moment où le sas de la capsule s'est ouvert, il a eu la sensation que les personnes venues le chercher sentaient le savon et la lessive. Thomas Pesquet retrouve aussi la gravité et même les objets légers lui semblent lourds.
Rien que de soulever un téléphone, Ça me paraissait absolument... On a l'impression qu'il y a vraiment un élastique qui tire vers le bas, parce que c'est ça la gravité, c'est un énorme aimant ou un énorme élastique qui tire tout vers le bas. J'étais pas très stable, je voyais bien que je marchais pas très très droit, que quand je faisais des virages un peu trop serrés, j'avais tendance à partir un peu en dérapage, mais heureusement il y a des gens, vous l'avez vu, qui sont là pour faire en sorte que ça se passe bien pour moi.
Thomas Pesquet va maintenant rester 3 semaines ici au centre des astronautes. Côté alimentation, il peut manger de tout, mais il doit éviter la caféine pour ne pas fausser les résultats des analyses médicales et scientifiques. À Cologne, lors d'Autriche, Europe 1.
C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup, Alban.
Il est 5h10, c'est l'heure des courses sur Europe 1, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Nantes et mon pari gagnant sera le 509 Hold Up du Dijon. Excellent second en dernier lieu à Vincennes. En dépit d'un déroulement de course vraiment peu favorable, ce trotteur sérieux et qui ne lâche jamais rien va se plaire cet après-midi sur ce parcours sélectif des 3000 mètres. Capable d'adopter toutes les tactiques grâce à sa maniabilité, il peut être considéré ici comme une certitude à l'arrivée. Alors notez bien, pour Nantes, réunion 1, dans la 5e course, le numéro 9, Hold Up du Dijon.
Hold Up du Dijon, quel joli nom. Merci beaucoup Thierry Léger, vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Très bon réveil à tous sur Europe 1 ce mercredi. Dans un instant, c'est votre pressing.
La revue de presse la plus matinale de France avec au menu la haute couture délaisse les poils, mais pas les écailles. Qui sera le futur champion de France du pull le plus moche? J'ai une idée. Et puis 2,30€, c'est le litre de sans-plomb. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon réveil à tous, il est 5h12 et nous sommes avec Martin Lange pour le pressing. Bonjour Martin.
Bonjour Julien, bonjour Blin, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux qui tous, dans leur grande majorité, reviennent sur l'allocution hier soir du chef de l'État. Vaccin, Macron ouvre la voie à la troisième dose obligatoire, titre Le Figaro. Campagne de rappel à partir de 50 ans, ajoute aujourd'hui en France, avec cet appel présidentiel, vaccinez-vous. Les Échos reviennent pour leur part sur les autres annonces de Macron, la construction de nouveaux réacteurs nucléaires et la réforme des retraites à nouveau repoussées. Avoir froid chez soi, avec comme illustration un radiateur entouré d'une écharpe, c'est la une de La Croix ce matin, à l'occasion de la toute première journée nationale de la précarité énergétique. Et puis on termine avec un numéro spécial ce matin de Libération, le Libé des animaux, avec plein d'enquêtes et de reportages au programme. Voilà pour les unes, et c'est d'ailleurs dans Libération, Omblin, que vous avez trouvé l'article que vous allez nous raconter à présent.
Oui, effectivement, et le sujet épineux des peaux des animaux sur les épaules des mannequins lors des défilés haute couture. Depuis 7 ans, les grandes marques abandonnent les fourrures les unes après les autres. Le groupe Kering a annoncé d'ailleurs officiellement il y a quelques jours l'abandon définitif de la fourrure animale de ses défilés dès l'an prochain. Le groupe Kering, c'est Saint-Laurent, Gucci, Balenciaga ou encore Alexander McQueen. Alors les visons et les renards sont saufs. Qu'en est-il des caïmans, des serpents et autres lézards? L'association de défense animale PETA a encore un long travail à faire. Le luxe ne semble pas encore prêt à déchausser ses mules en croco ou à renoncer à ses pochettes de soirée confectionnées avec la peau douce d'un serpent exotique. Les rayons des magasins Bulgari, Dolce & Gabbana ou Vuitton en regorgent. Chez Vuitton, un porte-document en alligator se vend 39 000 euros. Des animaux qui viennent d'Australie, d'Asie, élevés dans des fermes au Texas, au Zimbabwe. Et des images tournées encore récemment montrent l'ignominie des traitements des animaux, leurs conditions de vie, enfermés dans des cages, dans des fosses et leur mise à mort au summum de l'infâme. Libération rapporte notamment les propos de la porte-parole de la branche française de PETA avec des détails qui font froid dans le dos. Je vous épargne ce qu'elle dit, mais il est question de couteaux, de tiges métalliques et de longues agonies de crocodiles.
De toute façon, on doute bien que pour enlever la peau d'un animal...
Oui, mais on enlève la peau vivante, l'animal vivant.
Ouais,
on dit juste ça et ça suffit en fait. Ça se passe dans des élevages en Australie, tous liés à Hermès, avec comme finalité la confection de sacs à main. Toutes ces révélations ne sont pas nouvelles. Le luxe n'en finit pas d'être éclaboussé par ces scandales de maltraitance animale. Kering se défend en mettant en avant des programmes de conservation exemplaires. Hermès ambitionne d'aller, je cite, au-delà de la bien-traitance. A priori, il y a encore du chemin. Quant au groupe LVMH, il botte en touche et souligne plutôt la dimension durable et patrimoniale de tous ces accessoires, de tous ces vêtements. Un sac en peau de varan qui se transmet dans les familles. Pourquoi pas, Libé est allé jeter un œil sur un site de vente d'occasion et a trouvé un sac Dior en python utilisé une seule fois. Alors je vous rassure, tous les articles de ce Libé des animaux ne sont pas aussi consternants. On parle également d'amour, l'amour, l'amitié, le deuil existe-t-il chez les animaux? Un reportage nous emmène à l'hôpital des animaux sauvages dans le Jura. Et puis ne manquez pas le focus sur les vers de terre et sur les croquettes, Julien.
Pour chien. Vous qui êtes amateur.
Ouais, moi qui en mange tous les jours.
Voilà. Pour chien, les croquettes pour chien.
D'accord, c'est entendu, on va lire tout ça. Merci beaucoup, Omblin. Martin, à vous.
Est-ce que vous êtes des adeptes du pull de Noël?
Non, mais vous, visiblement,
après, oui. Vous avez déjà commencé.
Vous savez, c'est ce pull bariolé, souvent avec un Père Noël ou un bonhomme de neige, ridicule pour ne pas dire laid. Cette tradition venue des États-Unis est devenue une vraie mode ici aussi en France. Un dress code tellement populaire qu'une fédération française a été créée. Elle organise ce week-end à Millau, dans l'Aveyron, le championnat de France du pull moche. Et non, Julien, désolé, je n'y participe pas malgré mon pull violet. Alors c'est déjà la troisième édition.
C'est dommage parce que vous avez vos chances.
De championnat. Tout le week-end, une cinquantaine de candidats sélectionnés sur photo vont défiler, vêtus de chandails ringard, rapiécé, insolite ou tout simplement de mauvais goût. Une véritable grand-messe du kitsch. Derrière cette idée, il y a Yannick Chopin, ancien patron d'un restaurant qui se fait appeler la Geneviève de Fontenay du pull moche. C'est lui qui a créé cette fédération et il en est président à vie. Alors tout ça fait sourire, mais le pull de Noël est un vrai phénomène de société. Au départ, c'est une tradition née dans les années 50, outre-Atlantique. À l'approche des fêtes de fin d'année, on sort son pull le plus laid pour une sorte de concours informel. Une tradition popularisée par des séries grand public comme Friends ou le film Bridget Jones
bien
dans les
sûr,
années 2000.
Avec la grande tête de cerf.
Exactement. Des Canadiens inspirés ont alors lancé la première fête du pull moche de Noël avant la consécration, c'était en 2011, l'instauration d'une journée mondiale du pull de Noël. tous les 18 décembre. Depuis, le mouvement a pris de l'ampleur. On voit dans les familles, dans les entreprises, d'autres concours informels s'organiser. Les réseaux sociaux s'en donnent d'ailleurs à cœur joie tous les ans. Alors à Millau, ce championnat national est devenu l'événement de l'année. Le maire est président du jury, les commerçants jouent le jeu et aménagent des rayons spécialisés avec tout un tas de pulls moches. Tout ça avec un objectif, un rire bien sûr, et ce, quel que soit votre âge. Alors pour se départager quand même, les candidats vont défiler, tels des Miss France, et répondre à des questions toutes plus absurdes les unes que les autres, raconte Yannick. Parce que pour devenir champion de France du pull moche, hein, c'est autant le look que l'état d'esprit qui compte. Le pull moche a sa fédération et elle va désigner son nouveau champion de France. C'est à lire sur le site de West France.
C'est d'ailleurs une tête de reine, hein, dans Bridget Jones. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des grelots aussi.
Oui,
quand,
parce que maintenant, on est j'aime bien. C'est assez insupportable, au bout d'un moment. Okay.
Ça ne plaît pas beaucoup aux collègues.
En tout cas, on sait pourquoi Martin ne sera pas là demain ni après-demain. Hein, parce qu'il y a de la route pour aller à Millau.
Bah oui.
Merci beaucoup, Martin. Nous avons un record ce matin, les amis, un record historique. 2,30€ le litre de sans-plomb 95. Je répète, 2,30€ le litre de sans-plomb 95. Désolé à vous, chers auditeurs, si vous venez de recracher votre café. C'est le tarif affiché depuis le début de la semaine dans une minuscule station-service parisienne. La station Élan, située avenue Ledru-Rollin, dans le 11e arrondissement, qui est donc désormais, c'est officiel, la station-service la plus chère de l'histoire en France. Record validé, s'il vous plaît, par le ministère de la Transition écologique, nous apprend ce matin le Parisien. Alors certes, le prix des carburants flambe allègrement ces derniers temps, mais là on est quand même un peu hors catégorie, car 2,30€ le litre de sans-plomb, c'est tout de même 63 centimes de plus que la moyenne nationale enregistrée la semaine dernière. Rapide calcul, le réservoir de votre voiture fait 40 litres, oui. J'ai vérifié, donc quand vous faites le plein en ce moment, vous payez normalement 67€.
D'accord.
Et bien dans cette station-service, vous rajoutez 25€.
Ah ben, je vais pas y aller.
Quant au diesel, lui aussi, il n'est pas en reste. La seconde pompe de cette toute petite station, qui en compte deux, donc, propose le litre à 1,99€. Là, c'est là aussi un record national.
Mais alors, comment se fait-il que cette station soit si chère ? C'est
alors,
incroyable.
Selon le gérant, c'est la conséquence de la pénurie de chauffeurs, comme au Royaume-Uni. Il explique qu'il est impossible en ce moment de s'approvisionner correctement. Avant la crise, un camion venait chaque jour remplir les cuves. Désormais, c'est deux fois maximum par semaine. Carburant rare égale carburant cher. Je suis obligé de monter les prix, sinon je mets la clé sous la porte, se justifie le gérant. Le problème, c'est qu'avec de tels tarifs, les clients se font presque plus rares que les camions citernes. Le journaliste du Parisien l'a constaté lors de sa visite hier. En une heure, seul un scooter et deux motos ont fait un mini ravitaillement d'essence, juste quelques litres, histoire d'éviter la panne sèche.
La voiture est en panne d'essence. Nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler ?
Je rentre à la maison.
Ça fait bien loin à pied.
Oh, je connais les garçons.
L'endroit est
on va pas s'affoler alors ?
Non, surtout que vous n'allez pas y aller.
Non, je vais pas y aller, non.
La station service la plus chère de l'histoire en France, c'est à lire dans le Parisien.
Ouais, c'est peut-être aussi parce qu'elle est dans le centre de Paris aussi. Hein. C'est parfois les prix, non ?
Ah, ben bien sûr, c'est le prix des loyers. Oui. Tout est lié. C'est un ensemble de choses.
C'est terrible. Merci beaucoup, Julien. Le pressing, c'est terminé. Quel dommage. On ne manquera pas de recommencer demain. Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes.
À tout à l'heure.
Pour les sports.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1. Les principaux titres de ce mercredi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Ultimatum d'Emmanuel Macron hier lors de son allocution. Le pass sanitaire des plus de 65 ans sera conditionné à une dose de rappel à partir du 15 décembre. Le président a aussi annoncé la construction de réacteurs nucléaires, mais aussi la suspension de l'allocation chômage pour ceux qui ne sont pas en recherche active. Face au rebond de l'épidémie, les écoliers devront tous remettre le masque à partir de lundi prochain, a fait savoir le ministère de l'Éducation dans la soirée. 61 départements sont concernés depuis le retour des vacances de la Toussaint. Le miracle en Mayenne, la joggeuse retrouvée vivante hier à une dizaine de kilomètres de chez elle. Elle avait disparu lundi soir, Europe 1 vous le révélait. L'enquête pour enlèvement et séquestration se poursuit. Le parquet de Laval communiquera aujourd'hui. Et puis un témoignage plus qu'attendu ce midi au procès des attentats du 13 novembre, celui de François Hollande. À l'époque président de la République, il est cité comme témoin par l'association Life for Paris.
Il est 5h20 et sur Europe 1, on met en lumière chaque matin celles et ceux qui s'engagent. Ce sont les initiatives en France et elles nous emmènent aujourd'hui dans la région de Mâcon.
Bonjour Grégory Bonin.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Mimi Piu Piu et c'est sous cette marque que vous commercialisez depuis peu la toute première tétine pour bébé réutilisable. Expliquez-nous.
Oui, donc c'est la première sucette qui permet de séparer en fait la partie en silicone du reste de la sucette. En fait, ça a été vraiment l'idée de faire quelque chose de plus écologique. On réduit à peu près 60% de déchets plastiques comme ça. Et également quelque chose de plus hygiénique, vu qu'on peut nettoyer l'intérieur intégralement. Ce n'était pas possible jusqu'à maintenant.
Donc en fait, avec votre tétine, on ne fait que remplacer ce qu'on appelle la tétrelle en caoutchouc ?
Exactement, avec un système sécurisé à clé qui permet de séparer ces deux éléments. Ouais.
Et tout passe au lave-vaisselle, hein ?
Oui, ça a été vraiment quelque chose de très important pour moi. Ça a été de faire un produit aussi qui soit extrêmement simple d'utilisation, sécurisé, mais très simple. Comme vous l'avez dit, par exemple, pour nettoyer intégralement le lave-vaisselle et stériliser micro-ondes ou à bouillir.
C'est à force d'acheter des tétines pour vos propres enfants que vous est venue cette idée ?
Oui, tout à fait. C'est avec mes enfants, je les voyais utiliser ces tonnes de sucettes et je voyais tout ce plastique en fait qui était jeté à la poubelle, sans parler des emballages. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'existe pas quelque chose où finalement on remplace que le nécessaire ?
Je ne me rends pas compte, mais une tétine classique, c'est-à-dire non réutilisable, ça a une durée de vie moyenne de combien de temps ?
Alors, normalement, sur toute sucette, c'est noté qu'il faut les remplacer une fois par mois. Après, on pousse des fois toujours un petit peu plus, mais il faut faire attention, c'est surtout au niveau de sécurité pour les enfants. Mais normalement, c'est de un mois et demi, il faut les remplacer. Hein.
Alors ça, c'est le constat, vous l'avez fait il y a quelques années. Et ensuite, il a fallu développer cette tétine réutilisable, ce qui, je crois, n'a pas été simple.
Oui, ça a demandé 4 ans, hein, malgré tout, de recherche et de développement, de tests, d'essais, pour arriver aujourd'hui à quelque chose de complet.
Parce qu'à la base, quelle était votre profession ?
Alors, à la base, j'étais fleuriste. J'avais 2 boutiques dans la région lyonnaise.
Donc, rien à voir ?
Rien à voir. Mais ça a été une révélation, justement, dès que j'ai eu cette idée en voyant mes enfants les utiliser.
Et vous avez dû quitter la France pour trouver un industriel capable de développer votre idée ?
Oui. J'ai recherché dans un premier temps au niveau des industriels français sur un projet qui, justement, avait vraiment une demande très longue en R&D et un nombre de moules de fabrication très grand. Ça n'a pas été possible, donc j'ai recherché et ça a été donc la Thaïlande qui est ressortie avec un produit qui fait des produits de qualité, justement, également.
Pourquoi ça a été si long à développer ce projet ? Parce qu'une tétine, ce n'est pas si compliqué que ça d'un point de vue technique, finalement.
Alors, c'est ce qu'on pourrait penser, effectivement, de premier abord. La seule chose, une fois qu'on met le nez dedans, on se rend compte qu'il y a des contraintes très, très, très importantes et surtout avec une innovation comme je l'ai créée, qui a demandé justement pour avoir un niveau de sécurité encore supérieur aux sucettes actuelles. Et j'ai aussi, en plus des sucettes, développé tout un concept dans un coffret qui est très bien pour les coffrets de naissance ou cadeaux de naissance, où il y a tout un coffret de stérilisation également, un œuf en silicone qui permet d'insérer cette tétrelle sans avoir à la toucher avec les doigts, si on est dans un endroit où ce n'est pas très propre, par exemple.
On les trouve où, vos tétines Mimi Piu Piu ?
Alors, sur mimipiupiu.fr ou .com, et également chez des partenaires, c'est-à-dire sur le site, il y a également tous les points de vente qui sont disponibles. Et donc, c'est les premiers points de vente. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont en train d'arriver.
Ça coûte combien,
en pharmacie,
une tétine ?
Les tétrelles de rechange, donc Mimi Piu Piu, c'est 3,80€. La sucette réutilisable, 11,95€. Et le coffret complet, avec 2 tétrelles également à l'intérieur, qui a 34,95€.
Allez, pour terminer, une question. Pourquoi ce nom, Mimi Piu Piu ?
Ah, ça a été donc une petite recherche de savoir un petit peu de comment on pouvait partir sur la marque. Ça a été trouvé avec ma femme pour avoir un nom un petit peu sympa, enfantin, et qui menait très très bien avec le côté marketing de l'oiseau également. Aucune marque ne partait dans ce sens-là dans la puriculture.
C'est réussi en tout cas. Merci beaucoup Grégory Bonin de nous avoir présenté votre tétine pour bébé réutilisable. C'est écolo, pratique et ça s'appelle donc Mimi Piu Piu. Très bonne journée.
Merci.
À vous.
Merci à vous.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil à tous, il est 5h28 et voici le programme de la prochaine demi-heure.
Laurie Cheleva va nous emmener au cinéma avec 2 films cette semaine à ne pas manquer. Aline avec Valérie Lemercier et deux Valérie Lemercier. Et puis Cry Macho avec le bon anglais du dernier Clint Eastwood.
Et avec Clint Eastwood et du cinéma également avec votre invité Omblin.
Philippe Lombard, il sort aujourd'hui en librairie son livre « Ça s'est tourné près de chez vous », une histoire des faits divers dans le cinéma français quand les scénarios sont nourris par une réalité parfois sordide et donne des films cultes, hein, Les Blessures Assassines, sur les Sœurs Papin, Les Noces Rouges, L'Adversaire, avec des grands artistes aussi, des grands réalisateurs, de Claude Chabrol à Bertrand Tavernier. Pourquoi sommes-nous fascinés par les films inspirés de faits réels? Question posée à Philippe Lombard dans 10 minutes.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri et CNAPS.
La météo avec vous, Anissa Dadi, il pleut beaucoup en Corse.
Oui, d'ailleurs, les deux départements Corse, Julien, sont placés en vigilance orange, pluie, inondation toute la journée. Alors, nous entrons aujourd'hui dans la phase la plus critique, la plus agitée de cette dépression Blas. Ce matin, nous avons de fortes pluies orageuses qui d'ailleurs vont déborder hein, sur la Côte d'Azur et le Var, jusque sur les Pyrénées orientales cet après-midi. Donc, entre Perpignan et Nice, il va y avoir de très fortes pluies tout au long de la journée. Des pluies qui seront même soutenues cet après-midi. C'est sur la Côte d'Azur, la Provence et les Pyrénées-Orientales que les pluies seront les plus fortes cet après-midi. Ça va un petit peu se calmer en Corse, mais on va surveiller de près tout cela. Ailleurs, nous avons beaucoup de brouillard, comme hier, ce matin. Des brouillards qui sont par endroits givrants, donc soyez prudents sur les routes. C'est un petit peu plus couvert sur les côtes de la Manche hein, toute la journée. Puis dans l'après-midi, le soleil va s'imposer après la dissipation des brouillards. Il fait froid, encore plus froid qu'hier. Moins 5 degrés à Brive-la-Gaillarde, moins 3 à Montluçon, 2 degrés à Clermont-Ferrand, 1 degré à Paris et Lyon, 10 à Brest sous les nuages et 12 à Marseille. Cet après-midi, c'est plus homogène avec 8 à 20 degrés.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. C'est votre journal, il est 5h30.
Europe 1.
L'Europe, face au risque d'une nouvelle crise migratoire, des milliers de migrants massés en Biélorussie attendent de passer la frontière pour entrer en Pologne. Les Occidentaux accusent Minsk et Moscou de vouloir déstabiliser l'Union européenne. Emmanuel Macron veut pousser les plus de 65 ans à accepter la troisième dose, condition sine qua non pour conserver le bénéfice du pass sanitaire, a dit le chef de l'État hier soir à la télévision. Le procès des meurtriers de Mireille Knoll, perpétuité requise contre l'un des deux accusés. Et puis comment lutter contre l'inflation des prix du gaz? Eh bien, en Gironde, une commune a trouvé la parade.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Les vidéos font le tour des réseaux sociaux. On y voit des centaines de personnes massées devant des barbelés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Des demandeurs d'asile pris au piège d'enjeux politiques et diplomatiques qui les dépassent. Varsovie accuse Minsk de faire pression sur l'Europe et de vouloir déclencher une crise migratoire. Le gouvernement polonais a fermé sa frontière à double tour et sur place, la situation menace de tourner au chaos humanitaire. Reportage de notre envoyé spécial en Pologne, Marion Gauthier.
Les témoignages se multiplient. Migrants forcés d'avancer par les gardes-frontières biélorusses, stoppés quelques mètres plus loin par les barbelés et les soldats polonais. Et au milieu, raconte Anna, la forêt, un piège de verdure.
On a peur de rentrer dans la forêt et de voir ce qu'on va y trouver, quoi.
Anna Blumstein est enseignante. Le regard grave, cherchant ses mots, elle se rappelle son dernier aller-retour à la frontière fin octobre pour prêter main forte à des associations.
J'avais à 2h du matin dans cette forêt, qui est quand même la seule forêt primaire d'Europe, mais c'est aussi une jungle. Un sentiment d'absurdité. Enfin, on se dit, mais pourquoi nous on est là? Pourquoi ils sont là? Le plus grand problème, c'est l'eau. Il y a des gens qui n'ont pas bu depuis 4 jours, 5 jours, qui ont bu l'eau des marécages, qui ont bu l'eau des flaques d'eau, qui boivent l'eau sur les feuilles des arbres. Je ne sais pas combien de cadavres on va découvrir dans ces forêts, mais c'est dramatique.
D'autant que les températures chutent jour après jour. Un groupe d'ONG demande de laisser accéder à la zone une aide médicale et humanitaire, jusque-là interdite. Sur près de 400 km de frontière s'étend la zone d'état d'urgence. Seuls sont autorisés à y entrer résidents et militaires. Varsovie, Marion Gauthier, Europe 1.
Le Conseil européen vient de suspendre la délivrance automatique des visas pour les officiels biélorusses. Des représailles sont également envisagées à l'encontre des compagnies aériennes soupçonnées d'acheminer les migrants vers Minsk.
Pas de troisième dose de rappel, pas de passe sanitaire. Emmanuel Macron veut forcer les plus de 65 ans à se faire vacciner.
Et c'est l'une des principales annonces du chef de l'État lors de son allocution télévisée, la 9e depuis le début de la crise sanitaire. À partir du 15 décembre, les plus de 65 ans et les personnes les plus fragiles devront justifier d'une troisième dose s'ils veulent conserver leur passe sanitaire. Mesure plutôt bien acceptée par les intéressés. Reportage Océane Théard.
Emmitouflée dans son long manteau, Marie-Françoise, 69 ans, attend le début de sa séance de cinéma. La retraitée a reçu sa deuxième dose de vaccin il y a une semaine et entre une troisième injection ou alors des tests anti-Covid à répétition, le choix est vite fait.
Ben oui, la troisième dose, on la fera pour me préserver et préserver les autres.
Cela enchante moins Michel, 79 ans, qui patiente quelques mètres plus loin.
Je suis contre, mais s'il faut le faire pour pouvoir avoir un petit peu de liberté, pouvoir sortir
Aller au cinéma, si c'est pas avec le pass sanitaire, ben je le ferai. Sinon, c'est pas une vie, quoi.
Pour Nathalie, 68 ans, attablée à une terrasse voisine devant son café serré, c'est la lassitude qui domine à l'idée de repasser par la case vaccination pour pouvoir déguster son expresso.
Mais déjà, c'est un grand pas, les deux doses. C'est déjà énorme comme contrainte. Donc, un petit rappel en plus pour dire, voilà, on est complètement couvert. Si ça s'ajoute, s'il faut 15 doses, ça sera peut-être un peu embêtant.
Et même en grinçant des dents, toutes prendront le chemin de la vaccination pour continuer à profiter des petits bonheurs de la retraite, accessibles en un simple scan.
Illustration de cette volonté de vouloir continuer à vivre presque comme avant, la plateforme Doctolib a enregistré près de 100 000 rendez-vous pour la troisième dose dans l'heure qui a suivi l'allocution d'Emmanuel Macron. Quant au port du masque, il redevient obligatoire dès lundi prochain dans toutes les écoles primaires de France.
Emmanuel Macron ne s'est pas contenté de parler de la crise du Covid, il a aussi évoqué le social et l'énergie.
Le chef de l'État renonce à la réforme des retraites d'ici la fin du mandat, il la renvoie après l'élection présidentielle, même s'il n'a rien dit de ses intentions à ce sujet. Une réforme qui passera obligatoirement par un relèvement de l'âge légal de départ. Et sur le volet énergétique, Emmanuel Macron annonce la relance du programme nucléaire avec la construction de nouveaux réacteurs EPR.
Le procès du meurtre de Mireille Knoll, la perpétuité requise contre l'un des deux accusés.
Yacine Mioub est le seul auteur et responsable unique, a dit l'avocat général, qui a par ailleurs réclamé 18 ans à l'encontre de son co-accusé Alex Karim Bacus. Compte rendu d'audience, Gladys Lafitte.
Pour l'avocat général, cela ne fait aucun doute. La mort de Mireille Knoll repose sur les épaules de Yacine Mioub. Lui seul est l'auteur de ce crime particulièrement sauvage, a-t-il dit. La peine la plus élevée possible, la perpétuité, est donc appropriée selon le magistrat, qui n'a pas été convaincu par les mensonges de l'accusé, ni par ses thèses invraisemblables que les éléments matériels ont invalidées durant les débats, je cite. Durant deux semaines, les deux accusés se sont encore rejetés la responsabilité du meurtre, mais aux yeux de l'avocat général, Yacine Mioub, violent, instable, a porté les 11 coups de couteau, entouré d'un halo antisémite. Avachi, presque allongé derrière la vitre du box, l'intéressé n'a pas réagi. Son co-accusé non plus, Alex Karim Bacus, qui se voit accusé non plus de meurtre aggravé, mais de vol aggravé, même si la peine encourue reste la perpétuité. 18 ans de réclusion ont été demandés à son encontre pour avoir volé une morte dont le cadavre est encore chaud, a asséné le représentant du ministère public dans un souffle. Le verdict est attendu dans la journée.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.
Le soulagement en Mayenne, l'adolescente de 17 ans portée disparue depuis lundi soir a été retrouvée vivante.
Elle s'était réfugiée dans un commerce du centre de Sablé-sur-Sarthe où elle a donné l'alerte. L'adolescente en état de choc a été prise en charge par les médecins. Elle va maintenant être entendue par les enquêteurs. L'enquête pour enlèvement et séquestration se poursuit. Un homme est toujours en garde à vue.
Comment lutter contre la hausse des prix du gaz au moment où les températures plongent? Une commune de Gironde a trouvé la parade.
La municipalité de Réole gère directement l'achat de gaz via sa propre régie, un seul fournisseur, des prix négociés longtemps à l'avance lorsque le marché est au plus bas. On est aux antipodes de la logique défendue à Bruxelles. La dérégulation et la mise en concurrence de tous les acteurs. Les habitants de la commune, en tout cas, ne s'en plaignent pas, Stéphane Place.
Oui, et dans les rues de la Réole, ville de 4500 habitants où un tiers de la population se chauffe au gaz, quand vous parlez de la flambée des prix, eh bien, s'affiche de grands sourires.
Là, je viens de recevoir les factures et on me rembourse sur le gaz une bonne somme. C'est surprenant, vu le contexte actuel. Ouais, c'est vrai.
Mais vous payez le gaz moins cher ?
Ah ben bien sûr.
Votre facture, elle n'a pas explosé, vous ?
Pas du tout. Eh bien parce que moi, je suis à la régie.
La régie municipale, c'est elle qui guette en totale autonomie les opportunités d'achat sur le marché du gaz, au prix le plus intéressant pour le volume nécessaire. Une veille, une négociation qui permet de garantir aux Réolais aujourd'hui des tarifs environ 40% moins cher qu'ailleurs. Bruno Marty est le maire socialiste de la Réole.
Nous avons décidé d'acheter dès 2020 une certaine quantité d'énergie jusqu'à juin 2022. Cette énergie était un peu plus chère à l'époque que celle qui était proposée sur le marché, tout simplement parce qu'on parlait du gaz de schiste qui allait inonder le marché, qui allait faire baisser le prix. Je n'y ai pas cru. On a acheté donc cette quantité qu'on peut distribuer à nos Réolais à des prix défiant toute concurrence. Nous ne sommes pas cotés en bourse. L'objectif, c'est d'équilibrer.
Et la mairie vient également de lancer des études pour produire à terme du biogaz à partir de sa station d'épuration.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans l'ouest de la France.
C'était le journal plein gaz de Christophe Lamarre. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. C'est dans la 13e étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Nantes que va se courir ce Quintet. Et parmi les 16 partants répartis sur 3 poteaux différents de départ, difficile de ne pas accorder un très large crédit au numéro 16 Clean Game, un vrai vrai champion, qui fait une nouvelle fois figure d'épouvantail. C'est de loin le trotteur le plus riche de la course, puisqu'il totalise plus d'1 700 000 euros de gains. Sa condition physique actuelle est optimale, au vu de ses 5 dernières victoires consécutives, toutes obtenues avec une dérisoire facilité. On lui opposera timidement les numéros 8 Fly Speed et 9 Degana Ouida, respectivement 2e et 4e le 20 octobre sur l'hippodrome de La Capelle. Ces deux-là me semblent être également très compétitifs, mais seulement pour les places. Ensuite, méfiez-vous de Doux Parfum, le numéro 4 qui a souvent bien réussi sur cette piste nantaise, et de Destin Carizet, le numéro 5, revenu au mieux après une longue absence et dont la dernière fin de course à Vincennes n'est vraiment pas passée inaperçue. Enfin, les numéros 2 Herdelios, 1 Edu du Vivier et 13 Fric du Chêne compléteront ma sélection. Mon pronostic, 16, 8, 9, 4, 5, 2, As et 13.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger. 5h39, dans un instant sur Europe 1, un livre sur le cinéma français passionné par les faits divers.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon début de matinée à nos côtés, il est 5h40 et vous nous parlez, Omblin, d'un livre qui sort aujourd'hui en librairie et qui met en avant des films français inspirés de près ou de loin par des faits divers. Il s'appelle « Ça s'est tourné près de chez vous » et nous sommes en ligne avec son auteur.
Bonjour Philippe Lombard.
Bonjour.
Le titre de votre livre est un clin d'œil au film belge, noir et parodique, c'est arrivé près de chez vous de Benoît Poelvoorde. Pourquoi, Philippe Lombard, sommes-nous tant fascinés par ces films inspirés de faits réels?
Je crois qu'on est, fasciné déjà par les faits réels en eux-mêmes, par les faits divers. On aime les histoires sordides, qu'on veuille se l'avouer ou non, finalement. Il n'y a qu'à voir le succès des émissions comme Faites entrer l'accusé et tout ça. Donc on a envie de savoir, on a envie de voir le côté le plus sombre de l'être humain. Donc je pense que c'est une continuation, en fait, d'aller voir, de voir ces films qui parlent de ces faits divers, d'autant que quand on sait qu'une histoire si tragique, si sordide soit-elle, et qu'on raconte est vraie, tout de suite, on est plus impliqué émotionnellement, je dirais, dans le film, parce que souvent, ces histoires dépassent largement l'imagination de n'importe quel scénariste. Ces histoires-là, si on savait qu'elles étaient inventées, on n'y croirait pas forcément, mais il y a certains faits, certains drames, certains rebondissements auxquels on ne croirait pas habituellement, mais on y croit parce qu'on sait que c'est arrivé. Donc, je pense qu'on est happé par ça et on a envie d'être happé par des histoires, en fait, simplement. Je crois qu'on aime les histoires.
Alors, on retrouve des grands acteurs dans ces films. On va citer Jean Gabin, Guillaume Canet, Daniel Auteuil, des réalisateurs respectés, Claude Chabrol, Bertrand Tavernier. Beaucoup de ces faits divers donnent des grands films. On n'est pas sur des séries télé ou des films de série B. Enfin, on est vraiment sur certains chefs-d'œuvre.
Oui, c'est vrai. Faut dire aussi que souvent, les réalisateurs, ils utilisent un peu ces faits divers comme prétexte, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent aller au-delà de ça. Ils veulent souvent parler du contexte historique, du contexte de certains faits de société, etc. Donc, il y a souvent une ambition, enfin, derrière ça, qu'on retrouve pas forcément dans une simple série B qui va juste se contenter de relater une histoire criminelle, en fait.
Vous citez Francine Berger qui joue dans le film Les Abysses en 1963, inspiré des sœurs Papin, ces deux domestiques qui tuent leur maîtresse. Elle dit, à partir d'un fait divers, on a fait une œuvre d'art à propos donc des abysses. Tous les faits divers ne méritent pas un film. C'est quoi les ingrédients idéaux, s'il y en a?
Je pense que bon, il y a les faits en eux-mêmes, ces histoires de disparition, de meurtre, etc. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est les personnages. C'est-à-dire que il faut des bons personnages. C'est-à-dire que tous les gens qui ont tué, même en série, méritent pas forcément qu'on raconte leur histoire. Mais quand vous prenez des personnages comme Landru, comme le docteur Petiot, qui sont évidemment effrayants, mais en même temps fascinants, on peut en faire des personnages de fiction. Si vous prenez Mesrine, c'était déjà un personnage de fiction en lui-même. Il se mettait en scène, voilà. Donc c'est un personnage idéal. Et à l'opposé, on peut même aussi, il y a aussi ces personnages de gens qu'on accusait souvent à tort, qui essayaient de prouver leur innocence. Un personnage comme Omar Radad, qui est très humble, qui se retrouve dans une histoire incroyable et qui veut prouver son innocence depuis des années. C'est un personnage idéal d'histoire, de cinéma, quoi.
Vous avez classé dans votre livre les films par genre, les tueurs en série, les juges et les assassins, mais aussi les hommes qui cherchent la vérité. Le danger n'est-il pas de la part du réalisateur d'interférer dans le travail de la justice? Il expose finalement son intime conviction. Est-ce qu'un film peut être une tribune?
C'est souvent le cas. Mais souvent, ces films sont faits après les décisions de justice. J'ai pas forcément l'exemple de films qui ont influencé une décision de justice, mais c'est vrai qu'il y a des réalisateurs comme André Cayat, par exemple, qui voulaient vraiment prouver des choses. Quand Michel Drache fait Le Verre Rouge, il veut prouver qu'il veut éveiller les consciences, comme il dit, les consciences du public, en faisant comprendre aux gens que, voilà, vous avez... vous avez craché sur ce type, mais finalement, peut-être qu'il n'est pas si coupable que vous le pensez. Donc, il y a vraiment des fois une volonté vraiment de dépasser, en fait, la polémique qu'il y a pu y avoir, les foules qui ont crié à mort, et pour expliquer quelque chose derrière.
Vous prenez l'exemple de l'APAP, de ces jeunes qui détroussent et qui tuent des ouais. hommes, et puis c'est l'actrice qui s'appelle Marie Gillin, oui, qui joue le rôle de Valérie la Diabolique. L'avocat espérait réduire la peine de sûreté de sa cliente, mais avec le film, il y a eu tellement de battage médiatique que ça a été compliqué. Oui. Donc là, finalement, le film interfère avec
la réalité. Il interfère, mais en même temps, elle avait déjà été jugée. Oui. Donc là, en l'occurrence, ce qui l'intéressait, ce n'était pas de prouver quelque chose, puisque tous les faits ont été établis, c'était de montrer comment la dérive d'une certaine jeunesse, en fait, qui ne s'intéresse pas forcément aux mêmes choses que sa jeunesse à lui, qui sont obsédés par la réussite, par l'argent, etc., et qui sont prêts même à tuer pour ça. Donc c'était ça qu'en fait, c'était, il voulait montrer quelque chose à une certaine époque. Voilà, donc en fait, il interfère effectivement de façon un peu indirecte, mais ce n'était pas le but, puis il ne voulait pas éveiller les consciences sur cette affaire.
Merci beaucoup Philippe Lombard d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Votre livre, Ça s'est tourné près de chez vous, une histoire des faits divers dans le cinéma français, sort aujourd'hui aux éditions La Tango.
Merci, bonne journée.
Et on continue de parler cinéma dans la prescription culture avec Laurie Choleva.
Bonjour Laurie.
Bonjour Ambline, bonjour Julien, bonjour à vous.
Alors Laurie, comme chaque mercredi, ce sont les sorties et ce matin, vous nous parlez d'un biopic renversant et très attendu.
Et oui, c'est l'événement. Si je vous dis « Si je m'en sors »,« My heart will go on »,« All by myself »,« Pour que tu m'aimes encore »,« S'il suffisait d'aimer » ou encore « J'irai où tu iras ». Évidemment, c'est la seule et l'unique, Céline Dion. Et aujourd'hui sort « Aline », le vrai faux biopic inspiré de la vie de Céline Dion, réalisé par Valérie Lemercier. Oui, alors voilà, elle n'a que des tubes à son actif et je vous le dis tout de suite, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année. On suit donc le parcours hors du commun d'Aline Dieu, dernière enfant d'une fratrie de 14 frères et sœurs qui n'aurait jamais dû naître et qui va devenir l'une des plus grandes stars de la chanson au monde, mais surtout qui va vivre avec son manager une histoire d'amour de conte de fées.
On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer.
C'est la révélation au Québec depuis un an.
Voici Aline Dieu.
J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre.
Faut que tu guérisses.
Je suis pas malade, maman. Je suis tombée en amour.
Puis je suis sûre que lui, c'est pareil. Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut. Pas un vieux pruneau bronzé qui a trois fois son poids, deux fois et demi son âge et qui est deux fois divorcé.
Quel merveilleux film. Franchement, rien que de réécouter la bande-annonce, j'ai encore envie de rire, de pleurer, de vibrer. On est ému du début à la fin. Valérie Lemercier porte sur son idole un regard bienveillant et ça se sent dans ce film qui s'intéresse donc à cette double histoire d'amour. Celle d'Aline avec sa mère qui a tout sacrifié pour elle et celle d'Aline avec son Guy Claude.
Il y a des choses qui sont romancées, mais il y a des choses inventées dans le temps et dans les faits. Et dans les personnages, elle a eu 15 maisons, vous n'allez en voir que 3. Il y a 14 frères et sœurs, on les voit, mais il y en a surtout un qu'on voit plus que les autres. Faire un film, c'est choisir. Donc, et puis moi, l'axe principal, c'était la grande histoire d'amour avec sa mère et la grande histoire d'amour avec son manager et mari.
Alors, une mention spéciale pour ce casting 100% québécois irrésistible et une autre mention spéciale pour la chanteuse qui double Valérie Lemercier qui s'appelle Victoria Silo.
Et puis dans un autre registre, Laurie, après l'une de nos plus grandes voix, notre plus grand cow-boy de retour au cinéma.
Eh oui, si je vous dis 65 ans de carrière, 13 Oscars, 150 récompenses et 12 cow-boys interprétés. Évidemment, c'est Clint Eastwood qui est de retour avec Cry Macho. À 91 ans, il continue d'explorer l'un de ses thèmes de prédilection, celui du héros solitaire. Alors, il incarne Mike Milo, star déchu du rodéo, hanté par son passé et qui doit se rendre au Mexique pour trouver un adolescent et le ramener au Texas. Il va se retrouver seul face à la pègre mexicaine et la police.
Mon fils, Raphaël, il a des ennuis. Je veux le faire sortir du Mexique.
Tu veux que j'aille kidnapper ton môme ?
S'il te plaît, ramène-le.
Allez, Rafo, tu peux sortir maintenant. Je suis un ami de la famille.
Touche-moi, j'étais démoli, grand-père.
Nom de Dieu.
Un film émouvant car on découvre donc un Clint Eastwood au corps fatigué qui semble être encore plus qu'avant intéressé par le sujet de la transmission. Écoutez-le justement nous parler de son rôle.
J'aimais bien la relation, alors j'ai profité du fait que le gars était un peu déprimé et qu'il ait une chance de reprendre sa vie en main.
Et si vous voulez vous replonger dans la carrière de Clint Eastwood, un grand coffret collector est sorti, comprenant des documentaires inédits, des DVD et tous ses films. Merci beaucoup, Laurie Cholet-Vacroix, Macho de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood au cinéma, également Aline 2 et avec Valérie Lemercier.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h49 sur Europe 1. L'essentiel de l'actualité de ce mercredi, en moins d'une minute, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
100 000 rendez-vous sur Doctolib, une heure après l'allocution d'Emmanuel Macron qui a annoncé que les plus de 65 ans devront recevoir une dose de rappel pour conserver leur passe sanitaire. Le chef de l'État qui acte la construction de nouveaux réacteurs nucléaires et la suspension de l'allocation chômage pour ceux qui ne sont pas en recherche active. La jeune joggeuse disparue en Mayenne lundi, retrouvée vivante hier soir à Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres de chez elle. Prise en charge pour s'assurer de son état de santé, la procureure de la République de Laval annonce que l'enquête se poursuit. Un homme a été placé en garde à vue. Et puis verdict attendu aujourd'hui au procès du meurtre de Mireille Knoll. Hier, l'avocat général a requis la perpétuité et 18 ans de prison à l'encontre des deux principaux accusés.
Europe Matin. L'actualité de ce mercredi s'écrit aussi dans vos quotidiens régionaux et on les épluche chaque jour. On sélectionne un article que nous raconte celui ou celle qui l'a écrit.
Bonjour Jean-Marc Chevauché.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du Courrier Picard qui nous emmène ce matin au cabaret, celui du regretté Michou à Montmartre.
Et oui, une fois n'est pas coutume, Julien, nous avons quitté la Picardie pour nous retrouver à Paris dans le 18e arrondissement, dans la rue des Martyrs, qui est l'adresse du fameux cabaret Michou, une adresse qui a un petit peu de Picardie au cœur, puisque Michou était amiénois, il était né à Amiens. Le créateur du mythique cabaret est décédé le 26 janvier 2020, et c'est sa nièce, Catherine Jacquard, qui préside aux destinées d'un établissement qui est extrêmement renommé, bien au-delà de Paris. Et la soirée d'hier soir était une soirée à la fois picarde et parisienne. De nombreuses vedettes du Tout Paris étaient présentes. À l'occasion de la sortie du livre « La nuit en bleu, cabaret Michou, l'esprit d'un mythe », le livre qui retrace les plus de 60 ans d'existence de ce cabaret de Montmartre.
Alors vous le disiez à l'instant, il y avait du beau monde hier soir, vous pouvez nous dire qui ?
On a eu beaucoup de monde, Liane Folly, Michel Drucker, la comédienne Catherine Fraud, Annie Dupéré qui a préfacé le livre qui est édité au Cherche Midi, Mireille Dumas, la productrice de télévision, et puis on pouvait apercevoir aussi Brigitte Fourré, je vous disais tout à l'heure, qui est maire d'Amiens et qui est venue entretenir la flamme bleue du cabaret, puisque la ville d'Amiens, où je vous le rappelle, était né Michou et où une partie de sa famille réside toujours. La ville d'Amiens donnera donc l'année prochaine le nom de Michou à l'une de ses rues. Voilà pourquoi le Courrier Picard ne pouvait faire autrement que d'être présent à Paris hier soir.
Michou, malgré ses attaches très profondes à Montmartre et à Paris, n'a jamais oublié ses racines amiénoises ?
Eh bien écoutez, le menu du cabaret peut en faire foi, puisque vous pouvez déguster une excellente flamiche au poireau revisitée, qui est tout simplement la grande spécialité de Picardie, dont Michou voulait qu'elle soit toujours servie au menu du cabaret. Et une fois de plus, hier soir, il y avait encore une fois la flamiche qui est là tous les soirs au cabaret Michou, au 80 rue des Martyrs.
Merci beaucoup Jean-Marc Chevauché de nous avoir emmené au cabaret Michou ce matin. Cabaret qui retrouve ses couleurs et c'est à lire dans le Courrier Picard. Très bonne journée à vous.
À bientôt.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon mercredi à tous sur Europe 1. Il est 5h55 dans un instant. La météo, le journal et votre interview, Julien.
Un grand spécialiste des questions européennes va nous rejoindre car l'Europe est une nouvelle fois sous pression. Vous avez peut-être vu ces images impressionnantes qui nous viennent de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Ces milliers de migrants face à des barbelés bien décidés à les franchir malgré la présence de l'armée polonaise. Que viennent faire ici ces familles irakiennes, ces Afghans ? Eh bien, sont tout simplement instrumentalisés par le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko qui les a fait venir par avion pour se venger des sanctions de l'Union européenne. Situation explosive que l'on va décrypter dans 10 minutes avec Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po. On terminera ensuite avec votre partition, Omblin.
Oui, retour au début des années 2000. Nouvelle vie familiale, nouveau challenge avec une résidence à Las Vegas et nouvel album en anglais. La partition de Céline Dion dans 20 minutes. A tout de suite.
Très bon réveil à tous, il est 6h.
Mon premier message est ainsi un appel. Un appel à l'esprit de responsabilité des 6 millions d'entre vous qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Vaccinez-vous.
6 minutes pour convaincre, c'est le temps consacré hier par Emmanuel Macron au chapitre vaccination contre le Covid. Une allocution centrée en priorité sur son bilan et les réformes à venir. Un début de campagne qui ne dit pas son nom pour le chef de l'État. Le verdict du procès du meurtre de Mireille Knoll attendu aujourd'hui. Europe 1 vous le révélait dès hier, les fils de la victime réclament une journée nationale en hommage à leur mère. Et puis le soulagement infini pour les parents de Lisa, la joggeuse de 17 ans disparue en Mayenne lundi soir. L'adolescente a été retrouvée vivante hier soir après avoir échappé à son ravisseur.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. L'appel à la responsabilité d'Emmanuel Macron, c'est le message passé hier aux 6 millions de Français, toujours sans aucune dose de vaccin. Le taux d'incidence a progressé de 40% en une semaine et la grande majorité des patients en réanimation ont plus de 50 ans. Une classe d'âge bientôt concernée par la campagne de rappel. Zoé Pallier, l'objectif du président, c'est d'accélérer la cadence des injections.
Oui, et cela va se faire avec un calendrier en deux étapes. Début décembre d'abord, élargissement de la campagne de rappel à toutes les personnes de 50 à 64 ans. Emmanuel Macron a souligné que plus de 80% des malades actuellement en réanimation ont plus de 50 ans. À partir du 15 décembre, deuxième étape, on passe à une forme d'obligation. Les personnes de plus de 65 ans devront avoir reçu leur troisième dose pour prolonger la validité de leur passe sanitaire et pouvoir continuer à vivre librement. Pour les patients à risque comme les obèses et les diabétiques, s'ils ont moins de 65 ans, la troisième dose leur est très fortement recommandée, mais la validité de leur passe sanitaire n'en dépendra pas. Enfin, le président a également appelé tous les Français à poursuivre leurs efforts sur les gestes barrières, y compris les plus jeunes. Le masque sera de nouveau obligatoire à l'école dans toute la France dès lundi.
Les explications de Zoé Pallier, un appel à la vaccination visiblement entendu. 100 000 rendez-vous ont été pris hier soir sur la plateforme Doctolib, une heure seulement après l'allocution du chef de l'État aux allures de candidat.
27 minutes de discours consacrées en grande partie à son bilan. Emmanuel Macron a aussi évoqué la suspension de la réforme des retraites en 2022. Selon le chef de l'État, toutes les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien ce chantier.
Ce chantier-là, en revanche, est confirmé. Emmanuel Macron a annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, des EPR indispensables, selon le président, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Maud Descamps, ce feu vert donné par le président était très attendu par la filière.
Oui, alors le chef de l'État n'a pas indiqué combien de réacteurs seront construits. Tout cela sera précisé lors d'un déplacement, m'a indiqué un conseiller. Mais on sait que pour relancer la filière nucléaire, il faudrait commander au moins 6 EPR qui seront construits par paire. Du côté de chez EDF, on se félicite. C'est une très bonne nouvelle, indique-t-on. L'électricien avait annoncé en début de semaine que la filière était prête à construire de nouvelles centrales. Plusieurs sites ont déjà été identifiés pour installer ces réacteurs. La centrale de Gravelines dans les Hauts-de-France, celle de Penly en Seine-Maritime. Et puis il y a encore une hésitation entre celle du Tricastin dans la Drôme et celle de Bugey dans l'Ain. En ce qui concerne le calendrier, le premier EPR pourrait sortir de terre en 2035. Ensuite, il faudra suivre la cadence, le deuxième 18 mois plus tard, puis la deuxième paire de réacteurs 4 ans plus tard. Reste la question du financement. L'EPR de Flamanville affiche une facture 3 fois plus élevée que prévu, 12 milliards d'euros. Chez EDF, on assure que les futurs réacteurs coûteront 30% de moins. C'est en tout cas un message fort qui a été envoyé hier soir par le chef de l'État. Le nucléaire a encore toute sa place dans le mix énergétique français.
Maud Descamps, spécialiste énergie d'Europe 1.
C'est un dénouement inespéré pour la famille de Lisa, cette joggeuse de 17 ans qui avait disparu en Mayenne.
L'adolescente a été retrouvée vivante hier soir, réfugiée dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe après avoir échappé à son ravisseur. Les investigations se poursuivent pour comprendre les circonstances de cette disparition. André Boisseau est le maire de la commune de Saint-Brice où vit la jeune femme.
Évidemment, un grand soulagement que la petite soit retrouvée saine et sauve. Voilà. Je sais que les parents sont partis la retrouver, ça c'est sûr. Toute la commune, tous les gens qui connaissaient la famille sont très heureux. Ce sont des gens bien, ils méritaient surtout pas qu'on leur enlève leur fille. Moi, ce que je voudrais aussi saluer, c'est tous les moyens qui ont été mis en place toute la journée. Il y a des moments où j'étais plutôt pessimiste. Et là, 24 heures après, ça se termine bien. Ouf.
ouf de soulagement d'André Boisseau, le maire de la commune de Saint-Brice en Mayenne. On en vient à ce verdict attendu aujourd'hui, celui du procès du meurtre de Mireille Knoll.
Le parquet a requis la réclusion à perpétuité contre Yacine Mioub, voisin de la victime et seul auteur du crime pour l'avocat général. L'autre accusé risque lui 18 ans de prison pour vol aggravé.
Europe 1 vous le révélait hier, les fils de Mireille Knoll ont écrit à Jean-Michel Blanquer pour demander une journée nationale contre le racisme et l'antisémitisme.
Le 23 mars, jour de la mort de leur mère, femme juive de 85 ans, Daniel Knoll a expliqué son projet au micro de Gladys Laffitte.
Nous savons qu'entre le 21 et le 28 mars de chaque année, il y a une semaine contre le racisme. Et donc nous aimerions que le 23 mars soit une journée Mireille Knoll, auquel on associerait beaucoup de nos martyrs. Je pense notamment au père Hamel, à monsieur Beltrame ou bien sûr Samuel Paty. Et que le matin, dans les écoles, on puisse parler de tous ces gens qui sont morts pour rien, au nom d'Allah Akbar. Et puis, bien sûr, il y a nos personnes âgées qui sont délaissées, qu'on oublie un peu trop, qui vivent pour certains dans la misère sans que personne s'en préoccupe. Il est temps que les enfants prennent conscience de cela, regardent leurs vieux avec amour et humanité.
Daniel Knoll, le fils de la victime, au micro de Gladys Laffitte pour Europe 1.
Et puis François Hollande, entendu aujourd'hui à la barre au procès des attentats du 13 novembre 2015. L'ancien chef de l'État a été cité comme témoin par une association de victimes. Ce petit air de flûte, peut-être que vous le connaissez, c'est celui de Squid Game.
Ah oui, voilà.
Forcément, vous en avez entendu parler, c'est la série la plus regardée sur Netflix. La saison 2, forcément, vient d'être annoncée. Même si les producteurs ont fait une confidence, ils n'ont tout simplement aucune idée sur la poursuite de l'intrigue, donc ça promet.
Donc elle n'est pas prête de sortir, c'est surtout ça l'info.
C'est en projet, en préparation.
C'était le journal de Romain Hockey, merci beaucoup Romain.
Il est 6h06 sur Europe 1, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et les Bleus qui continuent leur préparation à 3 jours de leur match contre le Kazakhstan.
Oui, un match qui doit leur permettre de valider leur ticket pour le Mondial 2022. Pour cela, il suffira de s'imposer. Mais les Bleus arrivent diminués sans deux de leurs leaders, Raphaël Varane et Paul Pogba. Mais l'entraîneur adjoint Guy Stéphan fait confiance à leur remplaçant.
Évidemment que c'est un coup dur pour les matchs que l'on a à disputer. Ce sont deux cadres de l'équipe. Il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort. Il y a d'autres joueurs qui ont aussi le niveau international dans l'équipe de France et il faut leur faire entière confiance.
L'entretien complet avec l'adjoint de Didier Deschamps est à retrouver dans Europe 1 Sport samedi soir. À noter aussi ce matin l'interview de Noël Le Graët dans Le Parisien. Le président de la FFF assure que Benzema ne sera pas exclu des Bleus même s'il est condamné dans l'affaire de la sextape. Foot toujours chez les filles cette fois. Le PSG n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid hier soir. Victoire 4-0 au Parc des Princes devant plus de 18 000 spectateurs. Les Parisiennes prennent seules la tête de leur groupe de Ligue des Champions.
Le rugby, Martin, et le 15 de France préparent son match contre la Géorgie.
Oui, ce sera dimanche à Bordeaux, mais les Bleus ne sont pas les seuls à Marcoussis. Le Centre National du Rugby accueille aussi leurs homologues du 15 féminin. Les filles en tournée d'automne, elles aussi, après leur démonstration face à l'Afrique du Sud le week-end dernier, elles s'apprêtent à se frotter deux fois aux Néo-Zélandaises. À moins d'un an de la Coupe du Monde, la talonneuse Agathe Socha présente cette tournée.
On a une tournée d'automne qui est assez riche. On a joué l'Afrique du Sud, effectivement, qu'on va rencontrer à la Coupe du Monde. Donc c'était important de bien figurer. Et là, on a une double confrontation contre les Black Ferns, donc les All Blacks au féminin, on va dire, qui sont champions du monde en titre.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Trois nageurs à l'assaut du Titicaca. Le paralympique Théo Curin, la vice-championne olympique Malia Metella et l'aventurier Mathieu Vitvoud se lancent dans la traversée du lac Titicaca à la nage, 122 km à 3800 mètres d'altitude. Il s'élance aujourd'hui de Copacabana en Bolivie, arrivée prévue à Puno au Pérou dans une dizaine de jours. Et puis du tennis pour finir, Hugo Gaston a perdu hier pour son entrée en lice au Master Next Gen. Mais c'est une autre pépite française qui fait parler ce matin, Gabrielle Debrue, 15 ans, non classée à l'ATP et qui vient de reporter son premier match dans un tournoi professionnel.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, la situation extrêmement tendue à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Minsk instrumentalise des milliers de migrants pour régler ses comptes avec Bruxelles. On en parle dans un instant avec Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h11. Les images qui nous parviennent depuis plusieurs jours sont impressionnantes. Des milliers de migrants s'entassent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. On en parle, Julien, avec votre invité, Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes.
Bonjour Patrick Martin-Jeunier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Des barbelés et de part et d'autre, migrants et policiers polonais qui se font face, le tout scruté au loin par des agents biélorusses. Voilà ce qui se passe en ce moment à l'une des frontières de l'Union européenne, frontière qui ne nous avait pas habitués à pareille scène. Comment en est-on arrivé là ?
Écoutez, d'abord, on est arrivé là parce que c'est une tentative de Loukachenko, le dictateur du Bélarus, de déstabiliser l'Union européenne après les sanctions qui ont été prises contre son régime. Et donc, il ne l'a pas accepté et il instrumentalise des gens qui arrivent du Moyen-Orient et d'Afrique. Ce sont des migrants, des réfugiés qui utilisent une filière criminelle et donc qui sont conduits systématiquement et méthodiquement à la frontière polonaise pour les faire pénétrer dans l'Union européenne. Donc c'est véritablement une action criminelle de la part de Loukachenko.
Loukachenko qui va jusqu'à faire venir par avion ces migrants originaires pour la plupart du Moyen-Orient.
Oui, c'est absolument ça. Il utilise des filières criminelles, des passeurs qui font payer extrêmement cher à tous ces gens qui viennent essentiellement du Moyen-Orient, mais également du Kurdistan irakien. Vous savez que les Kurdistans sont toujours persécutés, mais également il y en a qui viennent d'Afrique, du Congo, de Cameroun, mais également de la Syrie, voire de l'Afghanistan. Mais c'est essentiellement en effet du Moyen-Orient.
C'est d'un cynisme incroyable et on imagine que toute cette opération ne peut pas se faire sans l'aval de Moscou. La Pologne accuse d'ailleurs ce matin Poutine d'orchestrer cette crise migratoire.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine était quelqu'un d'extraordinairement cynique, puisqu'il accuse la Pologne de masser des militaires le long de la frontière. Il est vrai que la solution pour la Pologne aujourd'hui, c'est de militariser cette zone. Il y a une zone militarisée de 3 km le long de la frontière. C'est entre 15 et 20 000 soldats qui ont été déployés par la Pologne, ce dont semble s'inquiéter en effet Vladimir Poutine.
Quelle est l'attitude des Polonais face à cette situation qui est inédite pour eux ? Vous venez de le dire, ils militarisent la zone, mais est-ce que pour autant ils appellent à l'aide ?
C'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est que la Pologne, qui est une fois encore un gouvernement nationaliste et populiste, ne veut pas de l'aide de l'Union européenne. Frontex, qui est l'agence de l'Union européenne pour protéger les frontières, a proposé son aide, ce qui a été fait également par la Commission européenne, mais jusqu'à présent, ils ont refusé. Ils ont refusé parce qu'ils ne veulent ni d'observateurs, ni d'organisations humanitaires, ils interdisent aux journalistes de venir dans la zone, et ils viennent de faire voter une loi qui est une entrave, une violation du droit d'asile, puisque également ils repoussent les migrants, ils n'instruisent même pas leur demande d'asile, ils les repoussent militairement. Et donc en effet, ce n'est pas dans leur intérêt, si j'ose dire, de faire venir les institutions européennes. Donc ils ne veulent pas l'aide européenne, ils ne veulent pas d'aide d'organisation humanitaire, aucune aide internationale. C'est donc la situation est extrêmement confuse sur place.
Donc que peut faire l'Union européenne, vu que Varsovie ne demande pas d'aide ? Est-ce qu'elle peut prendre des sanctions contre la Biélorussie ? Ce qui semble d'ores et déjà annoncé.
Oui, bien sûr qu'elle peut prendre des sanctions, mais le problème, c'est pas les sanctions. Elle a décidé qu'il n'avait pas lieu de faciliter la venue et la délivrance de visas pour les ressortissants bélarusses du régime. Mais aujourd'hui, prendre des sanctions, c'est une chose qui est possible, mais qui est à moyen terme, qui n'aura pas d'effet à court terme. Aujourd'hui, il y a une urgence. Que fait-on de ces migrants ? Que fait-on de ces réfugiés ? La situation est extrêmement mauvaise. Il fait très froid. Si rien n'est fait de la part de l'Union européenne, si on n'accepte pas que les organisations humanitaires viennent sur place, et notamment l'Europe, eh bien des gens vont mourir dans les jours qui viennent, car là, il fait très froid, il n'y a pas de nourriture, et il y a des campements sauvages. C'est plusieurs milliers de personnes qui sont massées le long de la frontière.
Bruxelles n'a aucun moyen d'imposer aux Polonais d'accueillir ces migrants, ne serait-ce que temporairement ?
Il faut une discussion avec les autorités polonaises et là, il n'y a aucun moyen de coercition. Je sais que le commissaire européen qui est en charge du dossier et Monsieur Borrell qui est en charge de la politique de défense et des relations extérieures doivent se rendre sur place pour rencontrer le Premier ministre Monsieur Morawiecki, mais également le Premier ministre de Lituanie et de Lettonie pour essayer de se mettre d'accord et d'accepter, de faire en sorte qu'ils acceptent la venue de représentants de l'Union européenne, mais également d'organisations humanitaires sur place pour aider matériellement individuellement, distribuer des repas, distribuer des soins. Mais ça ne peut être imposé à la Pologne. C'est une discussion qui doit avoir lieu dans les jours qui viennent, sans quoi, encore une fois, il y aura des morts le long de la frontière. Je rappellerai qu'également des coups de feu ont été entendus et donc il y a des risques que cela dégénère en violence.
Et justement, vu l'état de tension ambiant et les déclarations extrêmement belliqueuses de part et d'autre, vous redoutez une éventuelle escalade militaire, que Polonaises et Biélorusses en viennent à se battre littéralement ?
Je ne pense pas que les deux armées vont se battre, mais lorsqu'on se repousse les migrants tels des bombes humaines, il est certain que l'utilisation de matériel et de moyens militaires de part et d'autre pourrait conduire effectivement à des affrontements, d'autant que ce sont quand même des chars et des militaires qui sont massés du côté de la frontière polonaise et que donc du côté du Bélarus, certains rapports disent que les militaires du Bélarus ont systématiquement sectionné la barrière pour faciliter le passage de ces migrants et de ces réfugiés. Il pourrait y avoir en effet des affrontements entre les deux forces militaires.
Merci beaucoup Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Je donne le titre de votre dernier ouvrage, L'Europe a-t-elle un avenir ? Question plus que jamais d'actualité, c'est aux éditions Studirama. Très bonne journée et à bientôt.
Merci, au revoir.
6h17 sur Europe 1, vous restez avec nous dans un instant, la partition de Céline Dion.
Franchement, on trie nos déchets, on recycle le papier, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus au bureau.
Et tes cartouches d'imprimante ?
Ben quoi, mes cartouches d'imprimante ?
Ah, toi, tu connais pas Owa. C'est la référence des cartouches d'impression reconditionnées, même pour les entreprises.
Des cartouches vides qu'on recycle ou qu'on réutilise, c'est malin.
C'est malin et c'est Owa, O-W-A. Et rien ne se perd, tout se transforme. Va voir sur armor-owa.com.
Du lundi au vendredi à 13h, retrouvez La France Bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Allez, encore une fuite d'eau. Encore une livraison au 7e, sans ascenseur.
Chers professionnels, pour vous remercier d'être toujours là pour nous, en ce moment, si vous êtes propriétaire d'un véhicule utilitaire Volkswagen, vous pouvez bénéficier d'une remise de 50 euros sur l'entretien dans notre réseau et prolonger votre assistance pour 2 ans de plus.
Oui, allô, je suis à la porte de chez moi, j'ai bloqué ma clé.
Merci les pros de prendre soin de nous.
Jusqu'au 10 décembre, chez Volkswagen Véhicule Utilitaire, bénéficiez de 50 euros TTC de remise, des 250 euros TTC de prestations entretien et prolongez votre droit à l'assistance pour 2 ans. Informations et conditions sur volkswagen-utilitaire.fr.
IKEA. Tu sais, c'est un grand jour pour toi, un nouveau départ. Et puis tu feras le bonheur d'un autre, comme t'as fait le mien toutes ces années.
T'es vraiment en train de parler au canap, là ?
Eh oui, nous rachetons vos anciens meubles IKEA pour leur offrir une seconde vie. Du 10 au 28 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, recevez 50% en plus sur le montant de reprise de vos meubles. Hors magasin Paris Intramuros, voir conditions sur IKEA.fr.
Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites...
Je refais toute la déco chez moi. Entre ça et l'achat des cadeaux de Noël, je passe ma vie dans les magasins. Et avec ce froid, je préfère rester chez moi.
On vous répond, refaites votre intérieur sans bouger de chez vous. Sur leroymerlin.fr, la livraison à domicile est offerte sur des milliers de produits.
Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin.
Offre valable jusqu'au 15 décembre. Produits et conditions sur leroymerlin.fr.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 6h19 sur Europe 1. Voici les principaux titres de ce mercredi avec Alban Le Prince.
Une allocution aux airs de campagne présidentielle, celle d'Emmanuel Macron hier. 27 minutes pour annoncer l'obligation d'une troisième dose pour les plus de 65 ans qui souhaitent conserver leur passe sanitaire, mais surtout l'occasion de dresser le bilan du quinquennat et des chantiers en cours. Tous masqués, les élèves de primaire devront remettre leurs masques dans toute la France à partir de lundi, a fait savoir l'Éducation nationale hier soir. 61 départements étaient concernés depuis le retour des vacances de la Toussaint. Et puis 24 heures après sa disparition en Mayenne, la jeune joggeuse retrouvée en vie hier à une dizaine de kilomètres de chez elle. Le parquet de Laval doit communiquer dans la journée.
On termine avec votre partition, Omeline. C'est aujourd'hui que sort au cinéma le film Aline, de et avec Valérie Lemercier, un vrai faux biopic inspiré de la vie de Céline Dion. Et c'est l'occasion de retrouver la chanteuse québécoise il y a 20 ans, quand sa popularité mondiale lui donne le pouvoir de décider.
Nous sommes à l'aube de l'an 2000. Son interprétation de la chanson du film Titanic lui a offert le toit du monde. Elle remplit des stades, a vendu 140 millions d'albums. Céline Dion n'a de compte à rendre à personne et annonce qu'elle fait une pause.
When you see me.
Voilà des années que Céline Dion consacre sa vie à la musique et elle veut prendre du temps pour elle.
Comprenez, elle veut prendre du temps pour sa famille. Il ne faut pas oublier qu'au-delà d'être une star planétaire, Céline Dion est toujours cette petite fille de Charlemagne, la charmante ville de Charlemagne, entourée de ses proches. Elle est évidemment inséparable de René Angélil. Il se trouve que son mari et manager est malade et pour la chanteuse, ce rappel amer de la vie lui indique qu'il est grand temps de réaliser un autre rêve, celui de devenir mère.
Céline Dion et René Angélil accueillent leur premier enfant et les photographes sont aux premières loges.
Né d'une fécondation in vitro, ce petit garçon attire tous les curieux de la planète. Rien de choquant pour la chanteuse. Son public doit savoir, dit-elle, que les artistes sont des gens normaux, mais qu'ils ne vivent pas des vies normales. Pendant que Céline Dion profite de son congé parental, son mari, guéri de son cancer, travaille avec Garou, tout juste découvert dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Alors en toute logique, quand la chanteuse se décide à reprendre le chemin des studios, c'est pour enregistrer un duo.
C'est comme si j'avais pris la main. J'ai sorti la grande voile. J'ai glissé sous le vent.
La machine à fabriquer des tubes est remise en route après 2 ans d'arrêt.
Oui, mais Céline Dion ne compte plus faire de sacrifices. Elle signe un contrat record pour assurer une résidence exceptionnelle à Las Vegas. Plus de 600 représentations sont prévues au même endroit, donc le soir, comme dans n'importe quel boulot. Elle va pouvoir rentrer chez elle, retrouver les siens.
Et pour faire taire les critiques pour qui Las Vegas fait office de pré-retraite aux artistes has-been, elle enregistre un nouvel album.
Un disque tout en anglais, long de 17 pistes, une musique pop, électro et R&B dans l'air du temps, avec A New Day Has Come. Céline Dion embrasse pleinement le troisième millénaire et entame une nouvelle étape dans sa carrière.
I get wings to fly, oh, I'm alive.
Céline Dion avec I'm Alive, c'était en 2002. Retrouvé au cinéma.
Je m'en souviens très bien.
Oui, heureux. Au cinéma, le vrai faux biopic de la chanteuse baptisée Aline, réalisé et incarné par Valérie Lemercier.
Merci beaucoup, Ombline. Le vrai, vrai. Dimitri Pavlenko va nous rejoindre dans ce studio pour la suite de votre matinale sur Europe 1.
Europe Matin. Il est 6h27. Bon matin et merci d'écouter Europe 1. On se retrouve, nous, demain à 5h.
Et on vous laisse en compagnie avec Dimitri Pavlenko, très en forme ce matin. Bonjour, Dimitri.
Mais comme tous les matins, comme vous. Bah, bonjour,
bien sûr,
Julien.
Bonjour.
Bonjour, Ombline. Comment ça va ce matin?
Ça va bien.
Bon, très